Donc, on est avec Phil de philryan.ca. Tu es salué, mon ami.
Bonjour, Mathieu. Bonjour, Étienne.
Salut, Phil.
OK. Donc, la semaine passée, on a parlé des REER. Est-ce que ça vaut la peine de cotiser à des REER? Et là, tu nous as expliqué ça. Oui. Tout dépendant de la situation, évidemment, et tout ça. Décris-nous un peu, là, qu'est-ce que c'est vraiment, là, un REER?
Premièrement, un REER, c'est un régime qui est enregistré avec l'Agence du revenu du Canada, qui est reconnu, je devrais dire, par l'Agence du revenu du Canada. OK. Alors, c'est enregistré, ça c'est le premier E dans REER. Le deuxième E, ben, c'est un régime enregistré d'épargne. Comme on l'a dit la semaine passée, on se prive aujourd'hui pour l'utiliser plus tard. Puis le R, le deuxième R dans REER, c'est simplement en fonction de l'objectif qui est pour la retraite. Alors, ça c'est un REER, régime d'épargne. Je m'excuse. Régime enregistré d'épargne retraite. Okay? Régime enregistré d'épargne retraite.
Et ça, le REER, ça sort d'où, ça?
À ses débuts, d'où? Quand ça a commencé, là, les REER?
Alors, c'est le gouvernement fédéral qui a introduit les REER en 1957 pour donner des avantages aux Canadiens qui n'avaient pas accès à des régimes de pension enregistrés. Alors, il y avait un avantage fiscal qui s'appliquait à eux. Alors, le gouvernement il a dit, ben, on va l'appliquer à tout le monde. Alors, voilà, en 1957, ils ont débuté les REER au Canada.
Ça fait quand même un bout que c'est là, ce régime d'épargne retraite-là. Les avantages.
On a effleuré ça la semaine passée. Alors, le premier avantage, c'est les contributions que vous faites sont déduites de votre revenu imposable. Alors, utilisons des vrais chiffres. Si votre taux d'imposition est 40 %, ça veut dire que si vous mettez 1 000 de REER, le gouvernement va vous rembourser 400 $ en retour d'impôt. Alors, c'est un 400 $ que vous pouvez dépenser, mais vous pouvez aussi le remettre en REER. Alors, c'est simplement des impôts. Je veux juste souligner l'astérisque. L'impôt, vous allez la payer à un moment donné. Vous allez la payer quand vous allez sortir votre ou quand vous allez décaisser votre REER.
Donc, on fait une différation en fin de compte, mais plus tard dans le temps, peut-être à des revenus moins élevés.
Ben, c'est exactement ça, c'est ça, oui.
Puis, c'est ça l'objectif.
C'est okay? Ça l'objectif.
Comme on a dit la semaine passée, on souhaite de sauver du 40 %, on souhaite d'en payer du 30 à notre retraite quand que notre revenu va être moins élevé.
Et souvent, ben, on fait ça avec notre conseiller ou quelqu'un qui est, disons, ferré en finance parce qu'on va faire ça avant la saison des impôts, peut-être. Faire des petits calculs, s'assurer que tout est bon quand on reçoit le T4.
Oui, ça peut être fait avant aussi. Mm-hmm. Puis souvent, ben, on va impliquer disons, la personne qui va s'occuper de faire les impôts. Alors souvent, on pense que tout le monde connaît leur chiffre sur le bout des doigts. C'est pas le cas pour la majorité, je dirais. Donc, on aime ça faire quelques calculs avant. Puis là, Mathieu, tu réfères souvent là, à sauver de l'argent pour les impôts. Mais en réalité, le premier objectif, là, c'est vraiment pour la retraite.
C'est d'épargner pour nos vieux jours.
Pour les vieux jours, ben oui.
Pour avoir une qualité de vie,
ouais.
Pour le temps qu'on va vivre. Okay? Alors, c'est le premier objectif. Mais étant donné que le gouvernement a introduit ça dans le but d'encourager l'épargne.
C'est okay? Ça.
Ben, s'il y a un élément fiscal, ça vaut la peine de le planifier comme il faut. Puis, tel qu'on avait dit la semaine passée, ça vaut la peine d'être planifié correctement parce que ça fait une différence. On veut certainement pas payer plus d'impôts parce que c'est mal planifié. Alors, comme tu dis, Mathieu, oui, c'est important de le planifier avec votre planificateur financier. Mais je veux quand même parler du deuxième avantage, okay? Puisque tu me le demandais tantôt. La croissance qui se fait à l'abri de l'impôt, celle-là est importante. Okay, puis on va revenir à notre 1000 $ de tantôt. Si on investit dans un outil qui nous donne du 6 %, mais dans un outil enregistré, ben à la fin de l'année, on va avoir 1060, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Puis si on investit dans un investissement non enregistré, puis notre taux d'imposition est 40 %, ça veut dire qu'on va enlever 40 % du retour qu'on a fait.
Oui.
Oui.
OK? Fait que si on enlève 40 % du 6 %, ça veut dire qu'il reste 3,6 %. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, on n'a plus 1060, on a 1036. Puis là, j'utilise 1000 $ mais il y a beaucoup de monde qui ont 500 000, 600 000 de REER.
Oui, oui.
Alors, si on commence à payer l'impôt à chaque année, ben c'est plus de l'intérêt composé. Puis ça, vous avez sûrement entendu parler de ça, ouais. La magie de l'intérêt composé.
La magie de l'âge et le temps avec l'intérêt composé.
Puis, comme dans le fond, il n'y a rien de magique là-dedans parce que c'est simplement de la maths financière. Mais c'est le deuxième avantage. Il est important. Il faut en profiter pour ceux à qui les REER, c'est une bonne chose.
C'est le genre d'outil qu'on doit maximiser.
Oui, oui, absolument. Maximiser. Puis quand on parle de maximiser, là, tu me fais penser à deux choses, Mathieu. Tu me fais penser, un, à l'élément temps, comme Étienne vient de le mentionner. Alors, ça vaut la peine de prendre l'avantage
du temps devant nous qu'on a justement pour faire le cumulatif de tous ces retours-là pendant quelques décennies?
Idéalement. Okay? Parce que n'importe quelle courbe de REER qu'on va voir, que c'est une courbe exponentielle.
Mm-hmm.
Okay? Donc, les 5 dernières années avant la retraite, là, on avance beaucoup plus vite que les 5 premières années quand on commence à contribuer. Donc, l'élément temps, oui, est important. Puis, plus qu'on commence jeune, bien, plus que ça s'accroît. Plus rapidement.
Dans la vie, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est sûr qu'il doit y avoir des limites quelconques associées à ces avantages fiscaux-là au REER. Là.
Oui, puis je veux rappeler que c'est pas nécessairement bon pour tout le monde, mais oui, il y a des limites pour ceux à qui ça peut profiter. La première, c'est qu'on peut contribuer jusqu'à 18 % de notre revenu. Puis, il y a aussi une limite. En 2022, le maximum qu'on peut contribuer, c'est 210. Okay? Alors, ça, c'est une limite qui est importante. Puis, si vous avez un régime de pension enregistré, etc., ben, vous allez avoir un ajustement. Votre limite va être réduite par rapport à ceux qui n'en ont pas. Mm-hmm. Okay?
Ouais.
Donc, oui, il y a cette limite-là qui est très importante.
Toujours important, justement, tu parles de ceux qui ont déjà des pensions prédéterminées ou des plans de pension qui contribuent au travail. Toujours important de vérifier justement votre rapport de l'impôt de l'année précédente qui va souvent vous donner l'information de vos contributions pour l'année en cours.
Exactement. Puis, pas juste pour l'année en cours, pour le cumulatif.
Le cumulatif aussi.
Oui. Alors, vous recevez votre... mon Dieu, je me souviens plus du terme.
C'est
là.
Genre l'état financier ou l'état de notre compte... De taxation de l'année précédente.
L'avis de cotisation.
L'avis de cotisation, c'est bien le terme.
Okay, là, alors, tu l'as sur une ligne en quelque part.
Ça va être indiqué, vous allez le recevoir. L'autre chose, si vous avez un compte d'ouvert avec, je pense que c'est Service Canada.
Oui, l'Agence du revenu.
L'Agence du revenu du Canada.
Oui, l'Agence du revenu.
C'est indiqué, là. Vous allez voir les limites accumulées, disons, pour vos REER, puis aussi pour votre CELI. OK, mais l'information est là, est disponible en tout temps, en autant que vous avez un compte ouvert avec...
Et là, on a une limite au niveau du montant, mais de la date aussi, là.
Qui est oui.
Tout le temps quelque chose... c'est quand encore?
Alors, la date, c'est 60 jours après le nouvel an. Donc, cette année, c'est le 1er mars, alors au Canada, pour réduire vos impôts de l'année 2022, vous avez jusqu'au 1er mars 2023...
Pour cotiser.
Pour faire votre cotisation.
Après
exactement.
Ça, c'est encore bon, mais ça va aller sur l'année prochaine.
Et voilà.
Sur 2023. Le rapport d'impôt de l'année prochaine.
2023.
Exactement.
Bon, en terminant, Phil, y a-t-il d'autres choses qu'on doit savoir sur les REER?
Oui, une chose qui est importante, qu'on n'a pas mentionné, Mathieu, de nommer un bénéficiaire. OK? Puis c'est de savoir que si on nomme notre conjoint ou notre conjointe comme bénéficiaire, l'argent qu'on a accumulé dans nos REER va aller à notre bénéficiaire. Puis il n'y aura pas d'impact d'impôt. Ça veut dire que si on a 500-600 000 d'accumulés, puis qu'on laisse ça à notre conjointe, bien, le 500-600 000 va aller à notre conjointe.
Transférer directement au conjoint.
Exactement. Par contre, ça va à vos enfants, mais là, ça va être imposé tout dans la même année. Là.
Okay. Okay? Ouais.
Alors là, il y a un impact fiscal qui est important. Alors, c'est important que vos REER, quand vous avez un conjoint ou une conjointe, OK, qui est en règle. Là, de,
ouais.
OK. Bien, c'est important d'être conscient de cet avantage-là, de si on laisse, si elle est la bénéficiaire ou non. Alors, c'est un important.
Et de faire les changements si jamais ça a changé.
Ça a changé.
Dans les dernières années, on sait que ça peut arriver. Hein?
Et voilà.
L'importance d'avoir un bénéficiaire, trop souvent, c'est des fois, c'est oublié de temps en temps. Je l'ai vu à quelques reprises.
Oups.
De là, l'importance de faire des revues de façon continuelle avec votre représentant en fonds mutuels ou la personne qui s'occupe de planifier votre retraite.
Phil Ryan de chez philryan.ca, tu es salué mon ami, à la semaine prochaine.
Salut bien Étienne, salut bien Mathieu.